Heureux de vous voir ce matin et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Entre ciel et terre ». Et je crois réellement que c'est notre mission d'être entre la divinité, le côté spirituel, surnaturel de Dieu, mais aussi avoir les deux pieds sur terre ici pour faire ce que Dieu nous appelle à faire en mission ici sur cette terre. On le voit avec la vidéo de Mission Nouvelle Vie, il y a quelque chose de fort qui prend place quand une église comprend sa mission spirituelle, mais a les deux pieds sur terre pour dire « nous allons témoigner de la toute-puissance de Dieu par notre amour qui va être en action ». Et je crois qu'on est appelés, nous tous, que vous soyez dans le ministère ou pas, impliqués ou à temps plein dans une job et vous venez ici les dimanches, nous avons tous une mission d'être un médiateur entre le ciel et la terre. Dites « Amen ». Vous êtes avec moi ce matin et même si vous avez le masque, je veux vous entendre, je veux vous voir réagir. Et s'il y a quelqu'un qui dort à côté de toi ou qui est en méditation dans le repos du Seigneur, réveille-le. Tu diras, on dormira plus tard. Là, aujourd'hui, on est réveillé. Et alors, entre ciel et terre, cette semaine, j'étais frappé alors que j'étais dans mes temps de dévotion. Je lis un passage dans l'Ancien Testament et un passage dans le Nouveau. Et puis, j'y vais chronologiquement dans les livres de la Bible. Et je suis arrivé dans deux passages qui m'ont vraiment interpellé cette semaine. L'un se trouve dans le livre de Daniel. Et l'autre se trouve dans le livre des Actes. Et alors que ça parlait à mon cœur, il y a vraiment quelque chose qui m'a interpellé d'une manière nouvelle. C'est-à-dire que dans les deux livres, ce sont des livres qui parlent de la puissance de Dieu. Une révélation prophétique au niveau de Daniel. Et Actes 2, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est vraiment des livres très spirituels. Mais j'ai été frappé parce que je voyais combien Dieu, dans sa toute-puissance, travaillait au travers de notre humanité. Et ces textes, autant ils m'ont fortifié au niveau de ma foi, autant ils m'ont rassuré au niveau de mon humanité. Et je veux vous partager ce que j'ai reçu parce que je crois que la parole de Dieu me parle et puis je crois réellement que Dieu m'appelle à amener un message pour vous. Et ici, ce n'est pas le messager qui est important, c'est le message, n'est-ce pas? Ce n'est pas les conseils du pasteur Ben Witten, au contraire, c'est tout ce que la parole de Dieu a à nous enseigner. Alors, est-ce que vous êtes prêts à entendre ce que Dieu a à vous dire ce matin? Amen. Comment Dieu travaille avec notre humanité? On va regarder dans Daniel, le livre de Daniel au chapitre 2. Et je vous donne un peu le contexte. Okay? Daniel a vécu à peu près 600 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et il y a eu un exil de Jérusalem. Le peuple de Babylone avec Nebuchadnezzar est arrivé et il a emmené le peuple en captivité jusqu'à Babylone. Et Daniel se retrouve avec ceux qui ont été emportés pour travailler, entre guillemets, comme esclave à Babylone. Et il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe là parce que Daniel a l'Esprit de Dieu en lui. Il y a vraiment, dans Daniel chapitre 1, on voit que Dieu met un esprit de sagesse, d'intelligence, quelque chose de fort. Parce que Daniel, on le sait, va être celui qui va avoir une vision de Dieu. Il va révéler les rêves. Il y a quelque chose de tellement puissant, même prophétique, que Daniel va avoir. Et on voit dans ce texte que Daniel et ses compagnons sont trouvés par le roi Nebuchadnezzar 10 fois supérieurs à tous les autres magiciens et astrologues. C'est-à-dire que Daniel avait une vision que le roi voulait. Il y a un côté de sagesse spirituelle. À l'époque, les rois s'entouraient de gens qui pouvaient les conseiller, qui pouvaient essayer avec la divination, avec le côté très, très, très spirituel, un peu très magique même. Et Daniel est pris comme dans le rang des magiciens. Mais la Bible nous dit que lui et ses compagnons sont trouvés 10 fois supérieurs aux autres. Il y a comme quelque chose que l'Esprit de Dieu se manifestait au travers d'eux qui témoignait de la puissance de Dieu. Et alors qu'ils se sont trouvés 10 fois supérieurs à tous les autres magiciens et astrologues, Nebuchadnezzar, le roi, fait un rêve. Il a une vision la nuit et ça le trouble complètement. Et là, il convoque tout le monde, tous les magiciens, les astrologues, et il leur dit « Voici ce qui se passe. J'ai eu un rêve, une vision incroyable, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Dites-moi la réponse. » Alors là, tout le monde essaye de trouver un peu de temps parce qu'il n'y a personne. Alors ils disent, d'accord roi, dis-nous un peu quelle est ta vision et nous te donnerons son explication, entre guillemets. Donne-nous un peu de latitude et puis on va te raconter une histoire et puis tu vas être bien content avec ça. Mais le roi, il dit non, 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 vous ne me la ferez pas comme ça aujourd'hui. C'est comme, voici, vous devrez non seulement me dire la vision que j'ai eue, le rêve, et son interprétation. Et là, wow, dans l'équipe des magiciens et des astrologues, c'est comme, ok, là, on va un petit peu trop loin, là, il faut qu'on trouve le rêve et l'interprétation. On aurait pu un petit peu maquiller tout ça avec l'interprétation, mais là, on peut pas aller dans sa tête. Et là, c'est incroyable parce que le texte arrive ici, le roi est tellement furieux parce que les magiciens et les astrologues viennent en disant, c'est impossible, il n'y a personne qui peut faire ça, à part les dieux. Il n'y a personne qui peut te révéler quel est le rêve et l'interprétation. Et là, le roi est tellement frustré, il est un petit peu, lundi matin, pas très motivé, il dit « Tuez-moi tous les magiciens et les astrologues ». Et là, dans le royaume, tout le monde est à la recherche de ce groupe spirituel, surnaturel, magicien, astrologue, pour les faire tuer. Et Daniel et ses compagnons sont trouvés dedans. Alors, c'est incroyable, je vous remets un petit peu le contexte, et on va lire ici dans Daniel 2, 12 à 22. Là-dessus, donc quand il entend le roi est frustré. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjok, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjok exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, ce que tu nous as révélé, le secret du roi. » Amen. J'ai tellement été inspiré par cette prière à la fin que, même si ce n'est pas cette prière-là qu'on va regarder, elle était tellement puissante que je me suis dit, c'est tellement le cri du cœur de quelqu'un qui implore ce que Dieu, on a besoin de toi. Et une fois qu'il reçoit, il y va avec une prière de reconnaissance, de gratitude, ce qu'on fait tous les dimanches matins. Alors que le bain des langues en disant, élevons nos voix, adorons Dieu. On a mille et une raisons d'adorer notre Dieu. Et parfois, on est comme si que Dieu n'agissait pas dans notre vie. Dieu nous bénit, Dieu nous révèle, Dieu nous fait avancer. Dieu est le chemin pour nous, pour que nous puissions marcher ici dans une vie abondante. Alors le dimanche matin, je vous encourage, prenez votre liberté, venez adorer d'une voix forte, venez lever les bras, prenez votre liberté. Et parce que Dieu est digne de louange et d'adoration, qui le croit? Alors, Daniel est comme en train de se dire, il est entre ciel et terre. Il cherche une direction de Dieu, mais il doit donner une réponse. Un peu comme le côté où tu as deux chemins devant toi, ton boss te dit, « Ok, tu peux déménager, avoir une augmentation et puis partir à Saskatchewan maintenant, ou alors maintenant reprendre le poste ici à Saint-Bruno. » Puis là, tu es comme, « Seigneur, il faut que je donne une décision. » Et puis, tu es un petit peu dans le flou. Et puis, la réponse, tu dois la donner demain. Vous avez déjà eu cette pression? Il y a comme un côté d'excitement, mais en même temps, tu dis, mais je n'ai pas encore la réponse, qu'est-ce que je vais dire? Daniel est dans ce côté-là et lui, il va mourir. Vous n'allez pas mourir. Okay? Donc, on remet les choses en présent. Premier point que je veux voir avec vous, c'est sa puissance et notre responsabilité entre le ciel et la terre. Quand on pense à Daniel, et comme je vous l'ai dit tantôt, on pense au prophète incroyable Daniel, à celui qui reçoit une vision de Dieu. Daniel est l'un des seuls héros dans la parole de Dieu humain où on ne sait pas quelles sont ses fautes. Tous les autres êtres humains dans la parole, on voit leur chute et tout ça. Daniel, on ne le voit pas. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait, non, pas du tout. Ça veut dire qu'il était imparfait, mais le texte de la parole de Dieu ne nous montre pas les fautes de Daniel. Ça veut dire qu'il était quand même quelqu'un d'exceptionnel, non pas parfait, il n'y a que Jésus qui était parfait, mais Daniel était quelqu'un d'incroyable, un prophète, quelqu'un qui recevait la puissance de Dieu. Il a eu des visions surnaturelles de la fin dans le... Il a eu des visions prophétiques, des temps qui se sont déjà faits et puis des temps de la fin encore, comme on l'a vu dans les dernières semaines. Il y a un livre complet écrit sur sa vie et sur ses visions. Dieu manifeste sa puissance incroyable à travers lui, mais voici comment Daniel va fonctionner. Alors qu'il entend la sentence qui va arriver, le texte, et c'est ça qui m'a interpellé cette semaine. Daniel va agir avec prudence et de manière sensée. Avec prudence et avec le gros bon sens. Et il va aller voir le roi et il va lui demander du temps. Il y a un côté où, pour moi, c'était comme un paradoxe. Comment quelqu'un qui est aussi connecté avec Dieu, aussi puissant spirituellement, celui qui, comme, quasiment, il parlait avec Dieu dans la nuit, Dieu lui révèle la vision, mais Daniel agit avec prudence avec le gros bon sens, en demandant du temps, parce qu'en ce moment, il n'a pas encore reçu ce que Dieu voulait lui dire. C'était incroyable parce que pour moi, et peut-être que ça va vous parler, je l'espère, c'est comme si, c'est comme si pour moi, il y avait un paradoxe entre la foi et la prudence. Je ne sais pas pour vous, hein, mais dans mon inconscient spirituel, c'est comme si tu as la foi, tu n'es pas prudent, tu es audacieux, tu avances, tu fais tomber les murailles. Tu n'es pas prudent avec un gros bon sens. Non, c'est la foi. C'est quelque chose même de parfois qui dépasse l'entendement. Mais Daniel était rempli autant de sagesse pour discerner, pour marcher dans la foi ou agir avec folie. Vous savez, entre la foi et la folie, il y a quelques lettres de différence seulement. Mais parfois, sous couvert de la foi, on fait des moves un peu fous. Et je ne veux pas dire que la foi est toujours de manière logique et raisonnable. Non, non. Mais par contre, ce que Daniel nous montre, c'est comme il y a la prudence et la révélation. Les deux peuvent fonctionner ensemble. Et en fait, heureusement que Daniel a agi avec puissance et avec prudence. Parce que entre le ciel et la terre, il y avait l'humanité de Daniel qui disait, il faut que je trouve un moyen pour recevoir la puissance de Dieu. Mais il a agi avec prudence, et gros bon sens pour avoir du temps, pour gagner du temps. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a frappé ce texte parce que c'est comme ça que j'imaginais que quand il y a quelque chose, qu'on doit manifester la puissance de Dieu, il y a comme quelque chose où c'est pas structuré, il y a comme un côté où oh, c'est tout de suite, on ne s'y attend pas. C'est waouh, waouh, waouh. Non, non, non. Parfois, Dieu, il veut que nous le cherchions avec sagesse, intelligence, pour qu'il puisse au mieux manifester sa puissance. Dieu ne se manifeste pas dans le chaos et la précipitation. Non, il y a une structure, il y a une stratégie. Et Dieu veut faire quelque chose de fort dans ce monde. Entre le ciel et la terre, notre humanité est là. Et Dieu veut se servir de notre humanité pour faire quelque chose de beau. Est-ce qu'on peut remercier notre Dieu qui est patient avec nous? Est-ce qu'on peut l'applaudir et lui donner la gloire? Malgré la pression et la mauvaise nouvelle, Daniel ne va pas réagir avec précipitation. Il va sagement et intelligemment gagner du temps pour chercher la face de Dieu et la puissance de Dieu. Ce qui est incroyable, le texte nous dit qu'il va revenir chez lui et il va en informer ses amis, en les engageant à prier avec lui. Tout le monde a besoin d'un groupe, même Daniel. Daniel est déporté loin du temple, loin de son pays. Il n'avait que ses amis, mais c'était ses amis qui étaient ses frères. Il y a un côté où ce texte m'a rappelé que même la sagesse et l'intelligence et la prudence se fait en groupe. Tu ne peux pas avancer seul. Daniel va recevoir seul la vision. Mais il avait besoin de ses amis pour le soutenir dans sa quête spirituelle. Es-tu entouré en ce moment? Es-tu bien entouré? Tout le monde est entouré, mais es-tu bien entouré? Je parlais avec quelqu'un cette semaine, et puis il me disait, ah, tu sais, j'ai envie de revenir à Dieu, mais je ne sais pas comment faire. Et puis là, je lui pose des questions. Est-ce qu'en ce moment, tu as le désir de lire ta parole? Parce que Dieu parle par sa parole. La première chose, c'est lis ta parole, prie, passe du temps dans sa présence. Mais aussi, es-tu bien entouré? Il me dit, oui, j'ai beaucoup d'amis, et puis... Même s'ils ne sont pas forcément chrétiens, ce sont des bonnes personnes qui me conseillent. Je dis, on a tous besoin d'amis. Mais on a tous besoin encore plus de frères et de sœurs qui peuvent, eux, prier avec nous et pour nous et combattre et aller chercher la face de Dieu avec nous. Daniel est revenu chez lui en disant, « Guys, mauvaise nouvelle, on va tous mourir, mais prions et essayons de chercher une stratégie pour que Dieu puisse agir avec puissance. » Et je crois que si la parole de Dieu nous dit que Daniel est revenu et il l'a dit à ses amis, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous montrer que tu peux être le plus haut spirituel et avoir des révélations et avoir une puissance et rechercher l'autorité de Christ. Oui, mais tu as besoin des amis. Tu as besoin des gens autour de toi. On a tous besoin d'un groupe Nouvelle Vie. Dis-le à ton voisin. On a tous besoin d'un groupe Nouvelle Vie. Il en parle à ses amis qui prient avec lui. Des fois, j'entends dans le milieu chrétien les gens qui disent « Oh, mais la stratégie, c'est tellement quelque chose de charnel. Dieu agit d'une manière, tac, et puis on ne s'y attend pas. » C'est comme s'il faut toujours être prêt à ce que Dieu agisse, bien sûr. Mais des fois, Dieu attend qu'on se prépare pour qu'il agisse. La stratégie n'est pas charnelle, comme si que Dieu travaillait juste dans le chaos. Non, pas du tout. Daniel va agir avec prudence. Il va agir de manière sensée. Il va chercher du temps. Il va y aller avec intelligence et sagesse pour que la puissance de Dieu puisse se manifester. Et elle s'est manifestée parce que Dieu est fidèle à ses promesses. S'il dit « Je serai là avec toi dans le feu », c'est qu'il ne nous abandonne pas. Et même si parfois on dit, oh, il y a de la pression, et puis on dirait que Dieu est en retard, Dieu n'est jamais en retard. Dieu arrive toujours au bon temps. Il n'arrive jamais avant le temps, ni jamais après le temps. Et même si toi, tu penses que le temps est passé, si Dieu n'est pas intervenu, t'inquiète pas. Tout est en son contrôle et fais-lui confiance. Jésus est venu, non pas en disant, on va venir et puis on va boire un petit peu, rendu là-bas, ce qu'on fera. Non, il avait une mission, il savait exactement ce qu'il devait faire, il savait exactement la stratégie qu'il devait mettre en place. Le Saint-Esprit, parfois, on le voit comme quelque chose d'un peu flou, d'un peu qui agit de manière un petit peu... Non, pas chaotique du tout. La première chose que le Saint-Esprit fait dans Genèse, chapitre 1, c'est que l'Esprit se meut autour du chaos et il met de l'ordre. Alors si dans ta vie en ce moment tu dis « j'ai l'impression que tout est flou », va chercher la présence de Dieu parce que le Saint-Esprit de Dieu va te donner peut-être une direction avec sagesse et intelligence. Combien le croient ? Il reçoit une vision de nuit. Il fait tout ce qu'il est en sa capacité humaine de faire. Il prie, il cherche, il essaye de marcher avec prudence, avec de manière sensée à chercher du temps. Et Dieu lui révèle les choses. Lui, il n'a rien eu à faire d'autre que se préparer à recevoir. Et Dieu, pendant la nuit, c'est un petit peu pour dire, même quand tu dors, Dieu peut te parler, Dieu peut te révéler des choses. Mais il y a une menace de mort sur Daniel et ses compagnons. Et il trouve le temps de dormir. Est-ce qu'il y a du monde des fois qui... par insomnie, vit un petit peu là. Tu sais, on est comme toujours, oh, il faut être prêt. Tu ne fais rien. Et au plus tu es fatigué, au moins tu es productif. Au moins tu es productif, au plus tu es fatigué. Et c'est un... Daniel arrivait à dormir parce qu'il savait que peu importe, et puis il l'a dit après, hein, peu importe, si Dieu arrive et nous sauve, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave, c'est lui qui est souverain. Lui, il était tellement avec une confiance que moi, je fais tout ce qui est en mon possible pour le faire et je lui fais confiance. Maintenant, qu'il fasse selon sa volonté. Est-ce que des fois tu es trop anxieux et tu n'arrives pas à dormir la nuit parce que tu veux que ta volonté soit faite au lieu de sa volonté? Si tu as toute confiance en Dieu, tu peux juste dormir en paix. Si Jésus a dormi pendant la tempête, ça veut dire que tu peux dormir pendant tes tempêtes. Parce que s'il est là dans la barque, il sera là avec toi dans le feu, tu passeras de l'autre côté. Il y a vraiment une promesse qu'il faut que nous ancrions notre foi, notre cœur, nos pensées, notre tout en Christ. Parce que rien ne peut me séparer de lui, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les démons, ni la mort, ni la vie. Il y a quelque chose que nous devons comprendre, que peu importe ce qui nous arrive, Dieu est au contrôle de tout. Combien peuvent dire amen? Alors que j'avais 16 ans, je venais de me convertir, j'avais donné ma vie à Dieu. Et puis là, j'ai eu une parole prophétique sur ma vie en disant, tu seras un jour dans le ministère. Et moi j'avais aucune idée de quoi faire de ma vie. Et puis quelqu'un m'a dit, ton ministère sera comme un diamant, dans le sens, pas qu'il sera précieux, mais il y aura plusieurs facettes. Et puis, je ne comprenais pas encore, je me disais, c'est quoi, ça veut dire quoi? C'était tellement flou. Mais il y avait comme une vision qui était venue, puis je me suis dit, ok, c'est parfait, à 16 ans, je m'en vais dans le ministère. Puis là, quelqu'un me dit, mais il y aura un côté de prédication, mais aussi un côté de musique, et puis d'art. Et puis là, je suis comme, waouh, c'est génial, j'ai 16 ans, je suis super motivé, partons dans le ministère. Et là, la prophétie est donnée, puis là, je suis super motivé. Je reçois une parole de Dieu, ouais, mais dans ma fougue, je me suis dit, parfait, je prends mes quelques centaines de dollars que j'ai en économie et puis je pars en une école biblique. Et puis là, je reviens chez moi et puis je parle avec des gens, dont mon pasteur, et ils me disent, tu sais Ben, il y a la vision qui vient de Dieu, mais il y a les saisons de Dieu, il y a le temps de Dieu. Parfois, entre le ciel et la terre, il y a un délai que Dieu veut te préparer à. Il te donne une vision, un peu comme Joseph a eu une vision, mais il y a eu beaucoup d'étapes entre celles-là. Et de manière sagesse et prudente, il m'a dit, tu sais Ben, il faudrait que là en ce moment tu puisses terminer tes études, tu as juste 16 ans, tu n'aurais pas forcément toutes les finances pour partir, tu es même en fréquentation, je commençais à fréquenter la belle Sophie ici, et puis il me dit, tu sais, là tu voudrais partir, mais tu vas aller où? C'est quoi ton plan? Et pour moi c'était comme, non, c'est bon, le Saint-Esprit m'a parlé, il faut que j'y aille, mais tu vas où? Je ne sais pas, mais il va me conduire comme Abraham. Ouais, mais c'est comme, il y avait comme quelque chose d'autre que, il faut que tu passes par des saisons où Dieu va te préparer. Entre le ciel et la terre, Dieu, il fallait qu'il me façonne. Il fallait qu'on se fiance, qu'on se marie. Mais c'est qu'à 21 ans qu'on a fait le saut pour partir ici. Et pas forcément dans le ministère, non, dans la formation pendant 3 ans, avant de commencer le ministère. En fait, le ministère n'est pas un côté « voici tu l'as reçu, maintenant tu y es ». Non, c'est « voici tu as reçu la vision, commence à y rentrer un pas à la fois ». Entre le ciel et la terre, il y a un côté où nous devons marcher avec prudence, sagesse, intelligence, parce que Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence. Daniel était rempli de sagesse et d'intelligence. Non seulement il avait une vision spirituelle et puissante, mais il devait, avec son humanité, agir pour qu'il y ait le parfait vaisseau pour que Dieu puisse travailler. Combien disent amen? Le deuxième texte qui m'a frappé, c'est Paul dans les Actes. Acte 28. Paul vit des miracles incroyables. Le livre des Actes, vous le savez, c'est le moment où le Saint-Esprit est donné aux disciples. Puis là, il y a complètement un souffle nouveau. Lui, Paul, vit des miracles incroyables. Il a été persécuté pour sa foi. Acte 28, c'est le dernier chapitre du livre des Actes. Il est à Rome et Paul arrive et il convoque tous les principaux des Juifs de la ville pour leur exposer l'Évangile. Et voici ce que le texte m'a frappé. Acte 28, 23 à 24. Ils lui fixèrent, donc les Juifs, un jour et revinrent le trouver en plus grand nombre dans son logis, celui de Paul. Dans son exposé, il rendait témoignage au règne de Dieu et s'efforçait par la loi de Moïse et les prophètes de les persuader de tout ce qui concerne Jésus. Et cela depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent pas. Là encore, je me disais, c'est paradoxal, le livre des Actes, c'est le Saint-Esprit qui descend, baptême du Saint-Esprit, puissance, Pierre qui sort et qui commence à prêcher, 3000 âmes sauvées, une action surnaturelle, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de fort qui se passe, des signes, des miracles, des prodiges. Mais là, on voit que le dernier chapitre du livre des Actes, Paul, même s'il était rempli de cette puissance, s'il connaissait, il était sorti de terroriste à chrétien. Il persécutait et tuait les chrétiens. Et quand il a rencontré Christ, il a complètement été transformé. Il est devenu l'un des plus grands apôtres qui a écrit les trois quarts du Nouveau Testament. C'est quelqu'un d'incroyable qui a reçu une puissance spirituelle incroyable. Mais voici ce que le texte dit. C'est que Paul devait s'efforcer de convaincre les Juifs, pour les persuader d'eux. Pour moi, c'était paradoxal encore. Comment ce message aussi parfait puisse-t-il être? Ben, Paul devait mettre tous ses efforts pour essayer de les convaincre et de les persuader. Et même avec cela, certains crurent et d'autres pas. J'imaginais Pierre, en plus le texte marque, du matin jusqu'au soir, il a dû bûcher, vraiment. Mais il était là en train de se dire, il faut que je parle de ce message si parfaitement, il faut que je le communique de manière à ce qu'elle soit pertinente pour eux. Et il passait avec la loi, les Juifs, avec la loi et les prophètes pour que les Juifs puissent être convaincus que Christ était le Messie tant attendu. Paul était le prédicateur, je pense, le plus incroyable, rempli de l'Esprit, celui qui a reçu des révélations incroyables de Dieu. Mais il mettait quand même tous ses efforts pour convaincre et persuader. Est-ce qu'en ce moment, dans la mission que Dieu t'a confiée, tu prends ça relax en disant, de toute façon, c'est lui qui agit? Où tu es à tout le temps chercher à mettre tous tes efforts humains entre le ciel et la terre, mettre tous mes efforts pour convaincre, pour persuader. Pas que c'est ta persuasion qui va avoir le mot final. C'est pas que tous tes efforts sont tellement forts, waouh, merci. Non, 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 tes efforts sont comme les pains et les poissons donnés à Jésus pour que lui nourrisse une multitude. Toi, tu as juste à venir donner ton meilleur, donner ton tout. Le petit garçon, il avait un lunch, il a dit, j'ai 5 pains, 2 poissons, mais Seigneur, je te les donne. C'est même pas assez pour 10 personnes, mais si je te les donne à toi, toi tu vas faire le miracle. Si ce petit garçon n'avait pas donné les pains et les poissons à Jésus, il n'y aurait pas eu de multiplication. Même si Jésus peut faire de rien, il a décidé d'être partenaire avec nous pour que nous, lui en nous, nous puissions faire et accomplir des choses incroyables. Et des fois, on se déresponsabilise. On ne met pas tous nos efforts. On ne cherche pas à persuader, à convaincre du matin jusqu'au soir. On lui donne 10 minutes et puis Seigneur, si jamais tu veux, instruis et puis voici fait. Et après, on travaille comme si, voici, maintenant c'est à toi. Une fois, je marchais et je passe, j'étais en feu, puis je marchais, puis je priais, puis je rencontre quelqu'un. Je ne la connaissais pas, cette personne. Je passe à côté et puis là, cette personne passe à côté de moi. Puis ça vous est peut-être déjà arrivé. Puis là, dans mon cœur, je me dis, oh, il y a une compassion, prie pour cette personne, Ben. Puis là, je suis comme, Seigneur, je te prie pour cette personne, que tu te révèles à elle. Et moi, j'ai rencontré ton amour, j'ai été transformé. Je te prie la même chose pour cette personne. J'ai l'impression que le Saint-Esprit m'a poussé à prier pour cette personne. Et j'étais là en train de marcher, et nos chemins se séparaient, puis j'étais comme, Seigneur, parle-lui, viens te révéler à lui. Et là, le Saint-Esprit me dit, ben toi, parle-lui de moi. Puis je vous le dis, j'étais tellement spirituel que j'ai dit, non Seigneur, toi, parle-lui. Et j'ai continué mon chemin. Tu sais, mais c'est facile de se déresponsabiliser. Jésus est venu avec une mission entre le ciel et la terre. Il était 100% divin et 100% humain. Il a amené la divinité de Dieu dans une humanité incroyable. Et lui était parfait, nous ne le sommes pas. Donc nous devons, nous, dépendre de son esprit, mais nous devons prendre nos responsabilités. La mission que Christ avait ici, il a remis les clés à l'Église, vous et moi. Pas aux pasteurs, pas aux évangélistes, pas aux ministères, pas aux worship leaders. Il l'a donné à tous ceux qui confessent que Jésus-Christ est leur Seigneur et Sauveur. Et nous sommes tous des messagers entre le ciel et la terre, pour que nous puissions, par l'Esprit de Dieu, sa puissance, mais avec nos efforts, avec notre prudence, notre sagesse, intelligence, stratégie, faire qu'ensemble, Dieu puisse travailler à travers nous pour bénir une humanité qui a tant besoin de lui. Combien peuvent se dire amen? Alors, ne nous déresponsabilisons pas en disant, regarde, ça c'est dans ta cour, Seigneur, c'est toi qui touches les cœurs. Ouais, mais c'est à moi de parler. Comment connaîtront-ils s'ils n'entendent pas parler? S'il n'y a personne qui prêche, comment quelqu'un pourra entendre la parole de Dieu? Et tous ici, nous avons des dizaines de noms. On se dit, ah, ça serait tellement bien qu'il puisse entendre l'évangile. Je prie pour lui. Et il y a des personnes que même si on les invite à l'église, ils ne viendront pas forcément. Par contre, Dieu nous envoie dans ce monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans ce monde. Pour faire une différence, pour amener l'évangile, pour parler de la part de Dieu, pour mettre en place un côté où, Seigneur, je veux tellement être quelqu'un qui représente ta parole qu'à un moment donné, je pourrais parler à ces personnes-là, prier avec eux et tu vas toucher leur cœur. Est-ce que ça serait votre désir? Est-ce que si on avait on est 500 à peu près les dimanches entre les deux réunions. Si on avait 500 personnes qui recevaient une parole de Dieu, et je vous la donne ce matin, parler de lui. Si on pouvait partir cette semaine et aller évangéliser, parler de Dieu, prier avec les gens, donner des paroles de connaissance, tellement remplies de la présence de Dieu et de sa puissance, qu'on y va avec quelque chose où Dieu manifeste sa gloire. Combien pourraient voir leur ville, leur job, leur quartier, leur famille être transformée? Est-ce que c'est votre désir? Parce que c'est le désir de Dieu. Est-ce qu'on pourrait juste applaudir notre Dieu qui veut se servir de nous pour faire une différence dans ce lieu? Paul met tous ses efforts du matin jusqu'au soir. Puissance et persuasion. Parfois, on pense que les gens les plus spirituels n'ont pas besoin de réfléchir ou de travailler. C'est facile pour eux. Le nombre de fois où j'entends quelqu'un qui dit oh, « Pasteur, vous aviez une parole ce matin de feu. » Waouh, ça coulait. Avant que ça coule, ça a coulé comme ça, en arrière. Quelqu'un disait, le ministère, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Non, mais c'est vrai. Parfois, on croit que, oh, waouh, lui, là, c'est facile. Il y a juste à ouvrir la bouche et puis ça coule. Non! Oui et non, dans le sens où, parfois, oui, ça sera facile. Comme quelqu'un qui va écrire un chant et puis il va dire, waouh, j'étais inspiré. Mais on a tous le syndrome de la page blanche. À un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais dire? J'ai aucune parole, Seigneur. Et heureusement qu'on a la parole de Dieu. Parce que si c'était juste sur nos forces à nous, on n'aurait rien à donner ici. Mais la parole de Dieu est vivante et elle nous travaille. Mais nous devons venir en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle discipline tu veux que j'ai? Quel moment de prière tu veux que j'ai chaque jour pour ne pas être paresseux spirituel? Donne-moi de mettre tous mes efforts. Donne-moi d'agir avec sagesse, intelligence. Donne-moi, Seigneur, d'avoir un plan, une stratégie qui vient de toi pour amener ta puissance dans ce monde. Parce que je crois réellement que Dieu veut que nous puissions être puissants, mais également intelligents dans notre manière d'amener l'évangile. J'aime cette citation qui dit « Travaille comme si tout dépendait de toi, mais prie comme si tout dépendait de Dieu ». Et c'est fort parce que, oui, bien sûr, tout dépend de Dieu. Il est souverain sur tout. C'est lui qui te donne le vouloir et le faire. Mais je crois réellement qu'on a tous un choix. Choix à dire, je me lève et je parle, ou je m'assois et puis j'attends. Et Dieu a dit, hein, Jésus a dit, hey, priez le maître de la moisson pour qu'il y ait des ouvriers, parce que la moisson est blanche. Il y a du monde qui a besoin d'entendre. Maintenant, priez pour que Dieu puisse venir et chercher ces gens-là. On a besoin des gens qui prient, qui parlent, qui se lèvent et qui agissent. Combien disent amen? Je vais inviter les musiciens à revenir. Et alors que je travaillais ces textes-là, je voyais que combien Paul mettait toute son excellence pour arriver et toucher les gens qui étaient là. Les Juifs connaissaient la parole, mais Paul était en train de trouver une stratégie pour parler de Moïse aux prophètes pour arriver à Christ et leur montrer. C'est le même type de prédication que Jésus a utilisé avec les disciples d'Emmaüs. En passant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliquait tout ce qui se rapportait à lui. Il y a quelque chose de fort que Paul disait, il faut vraiment y aller de manière stratégique. Excellence. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot à Nouvelle Vie? Parce que c'est un mandat qu'on se donne. De rien jamais faire de manière médiocre, mais de toujours chercher à comment on peut le faire mieux que la semaine dernière. Pas que ça repose sur nous. Il n'y a rien de mes paroles qui peut toucher vos cœurs. Mais par contre, si on ne se prépare pas à ce que Dieu remplisse notre bouche et qu'on se prépare à donner une parole et juste à recevoir des gens, à les placer, à faire en sorte que les locaux sont prêts, sont nettoyés et que des gens dans le stationnement essayent de mettre la logistique. Si on ne fait pas tout ça, Dieu pourrait être limité. On pourrait dire, non, Dieu n'est jamais limité. Mais Dieu a décidé de passer au travers de nous. Et au plus on est prêt à ce que Dieu agisse à travers nous, au plus Dieu va travailler à travers nous. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des parties du monde en ce moment qui ne sont pas évangélisées parce que personne ne se lève et personne ne va parler? Pourtant, est-ce que Dieu est limité en disant « Non, cette région du monde, je ne la veux pas » Pas du tout. Mais il a dit « Vous avez les clés. C'est à vous de le faire. Levez-vous et allez. Qui enverrai-je? Qui parlera pour moi ?» Il faut quelqu'un qui se dise « Moi, je suis là, envoie-moi. » Est-ce que nous sommes prêts à prendre les armes et à prendre les stratégies en disant « Seigneur, donne-nous une excellence pour faire en sorte que cette semaine, elle soit meilleure que la semaine dernière, qu'on puisse encore mieux accueillir les gens ici, qu'on puisse faire encore plus de place aux enfants parce que tu nous emmènes une croissance ici et on ne veut rien freiner de rien. Et Seigneur, on va se travailler, on va travailler, on va mettre tous nos efforts, on va travailler avec intelligence, stratégie, oui, la stratégie qui vient de toi. Seigneur, la sagesse et l'intelligence, tout vient de toi. Mais donne-nous de mettre tous nos efforts et une joie et une passion qui est contagieuse pour que plus de personnes puissent recevoir et travailler pour toi. Est-ce que vous êtes de notre équipe? On a besoin ensemble de travailler avec excellence. Le contenu est parfait et il est essentiel, mais le contenant est aussi important. Il n'est pas essentiel, mais il est important. La parole de Dieu est parfaite en soi, mais Paul a dû quand même mettre tous ses efforts pour convaincre et persuader. C'est incroyable. Parce que Dieu décide de dire « Je mets mon huile parfaite dans des vases de terre que vous êtes. » Mais ce n'est pas vous qui allez compter, c'est moi en vous. Mais si on se laisse purifier par Dieu, si on se laisse travailler par lui, si on fait en ce moment tout ce qu'on peut faire pour que Dieu touche des cœurs, il va le faire au travers de nous. Parce que c'est son désir. Dieu a donné son meilleur. À notre tour de lui rendre tout ce qu'on a et tout notre meilleur, notre excellence. Et on doit tout mettre en œuvre pour laisser Dieu nous utiliser avec puissance, car nous sommes appelés à bâtir des ponts et non des murailles. C'est la dernière pensée que j'avais. Une main sur l'épaule de Dieu et une main sur l'épaule des hommes, entre le ciel et la terre. L'Église, les chrétiens, vous et moi aujourd'hui, sommes appelés à bâtir des ponts avec nos sociétés, avec nos quartiers, avec cette humanité qui a tant besoin de Dieu. Et nous avons besoin d'être aussi spirituels que nous pouvons, et aussi proche de l'humanité que nous le pouvons. Jamais charnel, mais spirituel. Nous sommes appelés à être dans ce monde, mais non pas du monde. Dites avec moi, de ce monde, mais pas du monde. C'est incroyable. Jésus a dit, je te prie pour eux, pas que tu les enlèves du monde, mais que tu sois avec eux dans ce monde, pour qu'ils puissent être puissants. On doit être 100% du royaume de Dieu. On est citoyen du royaume des cieux, n'est-ce pas? On est juste temporaire ici. Mais tant qu'on a une journée à faire ici, on doit travailler, mettre tous nos efforts avec sagesse et intelligence pour que nous puissions amener le plus de personnes avec nous célébrer là-haut. Nous devons travailler 100% du royaume et 100% à travailler dans ce monde. Parfois, on a tellement la tête dans les nuages qu'on veut rester sur la montagne. Et si vous connaissez les évangiles, à un moment donné, Jésus part prier avec Pierre, Jacques et Jean. Et il les emmène dans une montagne et puis il dit, venez, venez avec moi, on va prier. Et là, alors que les disciples sont en train de s'endormir, il y a quelque chose de fort qui se passe. Jésus est rempli de la gloire de Dieu. Et on appelle ça le moment de la transfiguration. Jésus est tellement dans la présence de Dieu que son visage resplendit comme une lumière incroyable, mais physiquement. Et là, il y a quelque chose de fort qui se passe, c'est que apparaissent Moïse et Élie à côté de Jésus. Ils sont là devant eux et les disciples sont... Pierre, Jacques et Jean sont comme « Wow, la gloire de Dieu est révélée ». En fait, c'était pour montrer que de Moïse, la loi, aux prophètes, donc tout l'Ancien Testament est révélé en Jésus-Christ. Jésus-Christ a accompli la loi et les prophètes. Et il y a comme une présence de Dieu incroyable. Et pendant toute la nuit, je pense qu'il devait être juste « Wow, qu'est-ce qui se passe ? Une nuée qui est là ». Il reconnaissait qui était là. Il y avait comme quelque chose de tellement puissant et spirituel. Et alors que Pierre est là, toujours audacieux, il va dire « Seigneur, on va rester ici, je vais aller chercher des tentes et puis là on va tous dormir ici en haut de la montagne, ça va être parfait. On va rester ici et puis on va juste quitter ensuite dans la gloire. » Pierre était comme « c'est parfait là, j'ai vécu le côté de l'humanité, maintenant je veux le côté, waouh, ce que Dieu peut nous révéler, c'est incroyable. » Et puis Jésus va être incroyable parce qu'il va les faire revenir sur terre tout de suite, il va dire « non, 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 on doit redescendre. » Et quand ils sont redescendus de la montagne, il y avait des missions incroyables, il y avait des malades à guérir, il y avait des démoniaques à délivrer. Jésus avait encore sa mission à faire, il n'était pas encore passé à la croix. Et les disciples, eux, voulaient juste le côté divin. Mais Jésus a dit non, 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 il y a une humanité qui se meurt en ce moment, et nous avons besoin d'attraper tout ce qui vient de Dieu et d'aller le révéler ici dans cette humanité. Entre le ciel et la terre. Alors qu'il y a quelques jours, on a lancé avec Envy Worship « Je veux rester ». C'est Julien Adam qui a composé cette chanson et puis c'est directement inspiré de ce moment de la transfiguration. Et les paroles sont fortes parce qu'il dit « Aveuglé, je contemple la beauté, la splendeur, la majesté, le roi dans sa puissance, le Fils bien-aimé. Je veux rester ébloui dans ta lumière, je veux rester comblé dans la joie du Père. En ce lieu saint prosterné, tiens-moi pour l'éternité, je veux rester. » Est-ce que c'est votre prière? Seigneur, on veut rester là où ta présence est, en haut de la montagne, on veut rester. Et alors que Julien expliquait ça, il disait, j'écrivais, puis il fallait redescendre de cette montagne. Il fallait prendre tout ce qu'on a besoin dans cette montagne et il va falloir qu'on redescende parce qu'il y a un peuple qui... Le verset 4 dit, « Si je dois retourner vers ce monde, annoncer ton grand amour, que ma fidélité reflète ce jour. Qu'en bas, ils voient que j'ai été en haut. Et je reviendrai. » C'est pas juste, « Oh, maintenant, c'est tellement loin. » Non, non, j'y reviendrai. Chaque matin, j'y reviendrai dans la présence de Dieu. Je reviendrai m'abreuver de sa présence. Je reviendrai là où coule l'espérance. T'as besoin d'espérance? Dans sa présence, en haut de la montagne. Je reviendrai m'abreuver de sa présence, en ce lieu saint prosterné. Tiens-moi pour l'éternité. Entre le ciel et la terre, Seigneur, on va être dans ta montagne, ici les dimanches, vive la gloire, proclamer ta gloire, ta victoire. Mais Seigneur, donne-nous une mission de repartir dans ce monde, redescendre de la montagne et d'aller lundi, mardi, mercredi, retrouver l'humanité déchue. Mais Seigneur, au plus j'irai m'abreuver de ta présence, au plus je pourrai donner et être un vaisseau, un canal de bénédiction dans ce monde. On ne doit pas rester la tête dans les étoiles, on doit aussi avoir les deux pieds sur la terre. Et au plus on va rester dans sa présence, au plus on sera complètement embrasé d'une passion pour revenir. On est appelé à revenir. Et un jour, on va y rester. Un jour, on sera dans la gloire pour l'éternité. Et il va nous tenir, on va être tellement bien avec lui. Il n'y aura plus de mission à redescendre. On ne redescendra plus, on décollera toujours. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte à ce moment-là? Et ça, c'est notre espérance. Mais en ce moment, Dieu dit, je veux te donner des clés, je veux te donner des paroles, je veux te donner des dons spirituels pour que tu puisses retourner, aller guérir les malades, aller délivrer les démoniaques. Et peu importe dans les situations qu'on a, est-ce qu'elles sont complètement émotionnelles, spirituelles, charnelles, peu importe, Dieu veut te donner les clés, comme pour Daniel. Aller chercher quelque chose que lui va te donner et que toi, tu vas répandre. Parce qu'il a besoin de toi. Il veut que tu puisses être un vaisseau pour sa gloire. Combien veulent être un vaisseau pour sa gloire? Est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux un instant? Et alors qu'on va chanter ce chant, « Je veux rester ». Je prie vraiment que, alors que je parlais de ça, je me disais, « Seigneur, il y a des fois un extrême dans le monde chrétien. » On veut tellement rester dans la gloire de Dieu qu'on oublie qu'il y a un monde qui se meurt. Et au lieu de bâtir des ponts entre eux et toi, on bâtit des murailles. Comme les monastères qui ont été bâtis pour que les gens spirituels puissent être protégés de la société. Mais Jésus ne nous a pas demandé de nous isoler, de devenir élitisme. Non, il a dit, vous devrez aller, je vous envoie dans cette mission. Et vous serez la lumière du monde. On ne cache pas une lumière, elle brille devant tous. Et alors que trop souvent, le monde chrétien veut rester sur la montagne, Jésus aujourd'hui dit non, tu vas tellement recevoir sur cette montagne que tu vas être prêt à redescendre. Et tu vas être puissant en bas de cette vallée. Mais d'un autre côté, je crois que dans notre monde chrétien, parfois il y a des gens qui restent en bas de la montagne et qui ne veulent plus remonter. Et il y a comme une paresse spirituelle. Comme un côté où, je ne sais pas, mais je me laisse dériver. Il y a mes doutes qui sont là, puis je n'arrive pas à les confronter. Je n'ai plus envie de passer du temps dans la présence de Dieu. Je lis ma Bible, mais il n'y a rien qui se passe. Je suis sec. J'essaye de prier, mais en même temps, je n'ai même plus envie. Je n'ai même plus de foi. Et puis, est-ce que tout cela, c'est vraiment vrai? Et est-ce que Dieu m'a juste oublié? Et parfois, on reste tellement en bas de la montagne qu'on ne veut même plus remonter. Mais il faut qu'on retourne à cette montagne. Jésus a emmené Pierre, Jacques et Jean en disant, venez voir ce qui se passe en haut de la gloire de Dieu. Et vous allez tellement être ébahis que vous pourrez redescendre avec une conviction que je suis puissant. Et celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, suivez-le, suivons les commandements de Dieu. Mais en ce moment, si tu es sec, tu as besoin d'aller t'abreuver en haut de la montagne. Viens avec nous, reviens chaque dimanche ici. Reviens chaque jour dans la présence de Dieu, dans tes temps de dévotion, dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la parole. Dieu veut déverser une huile de joie pour toi. Il veut souffler sur les braises de ta foi pour faire que le feu reprenne comme le feu du premier amour. Et Dieu veut réellement te dire, maintenant remonte, reviens avec moi. Mais ne reste pas en haut. tu redescendras et tu remonteras et tu redescendras. La présence de Dieu est accessible en tout temps aujourd'hui. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Cette puissance, cette lumière, Dieu lui-même vit en nous. Il veut révéler comme à Daniel des visions pour que les gens qui ne savent pas ce qu'ils vivent en ce moment, les chrétiens puissent dire, voici ce que tu vis. J'ai un don de discernement et voici une parole de sagesse pour soi. Voici une parole de prophétie. Voici ce que tu vis et voici ce que Dieu veut te donner. Est-ce qu'il y a une église qui est prête à dire oui Seigneur, envoie-nous, on est prêt à parler pour toi. Est-ce que je pourrais voir l'église se lever? Et alors qu'on va chanter ce chant comme une prière. J'aimerais vraiment qu'on se dise, Seigneur, donne-nous d'être des ponts vers cette humanité, d'aller chercher tout ce qu'on a besoin en toi et d'aller déverser tout cela dans l'humanité. Est-ce qu'on pourrait...